Christophe Barbier, la menace russe, la question de l'ingérence russe, les cyberattaques, l'espionnage russe, on va en parler aussi largement ce soir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette image. Image du jour, Vladimir Poutine en treillis auprès des troupes russes qui combattent à Koursk, poche du territoire russe qui est contrôlé depuis un an par l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens pensaient pouvoir s'en servir en monnaie d'échange, mais les Russes ont lancé une puissante contre-offensive. Poutine dit ce soir à ses hommes, à ses soldats, il faut reprendre la totalité de cette zone au moment même où les États-Unis demandent à la Russie de répondre à leur proposition de trêve de 30 jours. Écoutez.
Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. Tout à l'heure, Valérie Gerasimov a mentionné les prisonniers de guerre. Tout d'abord, nous devons bien sûr traiter ces personnes comme des terroristes, conformément aux lois de la Fédération de Russie. Nous traitons et traiterons avec humanité toutes les personnes qui se trouvent entre nos mains. Dans le même temps, je tiens également à rappeler que les mercenaires étrangers ne sont pas couverts par la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.
Actuellement, l'opération de destruction de l'ennemi sur le sol de Koursk se poursuit. Le groupement des forces armées d'agression est systématiquement détruit. Au total, pendant les opérations offensives, plus de 1100 km² de territoire ont été libérés, soit plus de 86% de la zone précédemment occupée par l'ennemi. Pendant les combats dans la direction de Koursk, l'ennemi a perdu plus de 67 000 soldats dans l'unité la plus entraînée et la plus motivée des forces militaires ukrainiennes. Au cours des 5 derniers jours seulement, 24 localités et 259 km² du territoire de la région de Koursk ont été libérés par les actions du centre de troupes de Koursk dans toutes les directions. Les militaires ukrainiens, voyant la futilité de toute résistance, ont commencé à se rendre activement. 430 soldats ont été faits prisonniers.
Jérôme Poirot nous a rejoint, consultant BFM TV, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Bonsoir. Paul Gogo, consultant Russie pour BFM TV, nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Paul. Ulysse et Elsa sont toujours à nos côtés. Et l'amiral Alain Koldéfi nous a également rejoint. Bonsoir. Vous êtes ancien inspecteur général des armées, ancien chef d'état-major adjoint. 20 ans, nous disait Elsa tout à l'heure, 20 ans qu'on n'avait pas vu Vladimir Poutine en image, habillé en treillis, en tenue militaire. Quel message, selon vous, a été envoyé par le président russe avec cette mise en scène?
Le message est tout simple. C'est le chef de guerre, et non pas d'opération spéciale, qui a besoin de se montrer visiblement. Il doit être pas trop loin du front, bien qu'on ne sache pas très bien s'il est loin ou pas trop loin. Et puis, avec comme directive, visiblement, Koursk va tomber. Donc, comme directive, je donne l'ordre de faire tomber Koursk. Sachant que ses troupes ont dû lui dire que ça va être sous peu. Donc, chef de guerre, le dress code, comme on dit, avec un objectif vraisemblablement atteint dans les quelques jours, peut-être plus tôt, dans la semaine en tout cas, avant les négociations. Et bien sûr, il y a le pendant de Zelensky et tout ce qui est arrivé avec Zelensky. Mais je pense que c'est second par rapport à l'idée qu'il veut montrer aux Russes qu'il a gagné la guerre, qu'il va continuer de la gagner. Enfin, la guerre, si tant est qu'on puisse employer ce mot quand on est en Russie.
C'est opération spéciale en Russie.
Oui, donc enfin, ils nous parlent de guerre, tout
ça. Mais c'est vrai que c'est très mal embarqué ce soir pour les Ukrainiens dans la région de Koursk, puisqu'effectivement, l'armée ukrainienne a dû se replier. Il reste à savoir combien de temps elle tiendra sur cette poche, effectivement, du territoire russe qui avait été pris par les Ukrainiens.
Il y a une autre dimension dont on débattra peut-être, qui est sur la dimension politique avant les négociations.
On y reviendra dans un instant, mais justement, Paul Gogo, on avait Claude Blanchemaison qui était tout à l'heure en plateau, ancien ambassadeur à Moscou, qui disait « Moi, dans cette image, je vois une victoire militaire affichée par Vladimir Poutine face à une défaite diplomatique, celle de Jeddah, où c'est dealé cet accord de trêve entre Ukrainiens et Américains. »
Il y a aussi une volonté de signifier quelque chose qu'on ressentait depuis quelque temps, c'est que Vladimir Poutine voulait vraiment montrer que cette région de Koursk occupée par l'armée ukrainienne, c'était pas un problème, c'était quelque chose qui allait se régler plus tard. Et d'ailleurs, la façon dont c'était traité dans la presse russe, la zone a été mise sous bulle. Il y avait très peu d'informations qui sortaient de cette région-là. La colère sociale a été plus ou moins mise sous contrôle parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont mécontents, pour certains, de vivre en zone occupée, d'autres qui sont en exil à l'intérieur de leur propre pays. Enfin, il y a eu un mécontentement, mais qui a été réglé très rapidement. Et le message qui était passé, c'était ne faites pas cas de cette situation-là. C'est pas normal, mais ça va se régler. Ce sera pas un vrai problème dans ce conflit. C'est juste que pour l'instant, on met nos hommes ailleurs, on met ce qu'il faut sur place pour maintenir la situation telle qu'elle, et en ce moment, aujourd'hui, même pour essayer de la régler. Mais l'idée pour Vladimir Poutine, ça a de toute façon toujours été de montrer que c'était pas un vrai problème, cette région de Koursk, et que jamais ça n'entrerait dans les négociations. Là, le message, c'est effectivement, premier message, c'est vous pouvez retirer dès maintenant cette question de la balance dans les négociations, parce qu'on va régler ce problème avant que les négociations, discussions...
C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, pourquoi Vladimir Poutine accepterait une trêve, alors même qu'il est là en ce moment en train de reprendre possession de ce territoire de Koursk.
Ouais, c'est pour ça que cette trêve, elle doit, si elle est conclue, elle doit se faire avec des avantages qu'en retirera la Russie. Sinon, à quoi bon avoir...
Quel avantage ?
Alors, il y a...
Quelles conditions peuvent être mises sur la table ?
On peut penser à beaucoup de choses, mais... La première des choses, c'est effectivement la levée des sanctions américaines, la possibilité de reprendre les vols et les échanges commerciaux et de personnes entre les États-Unis et la Russie, la possibilité d'établir des entreprises conjointes, des projets dans le domaine des hydrocarbures, dans l'exploitation de la façade arctique de la Russie. Ça, ce serait extrêmement profitable, ce serait un véritable gain. L'autre volet, c'est de faire admettre à la partie ukrainienne que les territoires conquis et officiellement incorporés à la Russie en septembre 2022, font désormais partie de la Russie dans leur totalité. Parce que si on parle notamment de ces quatre régions, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, elles ne sont que partiellement contrôlées par l'armée russe, qui demandera certainement à en avoir le plein et entier contrôle, alors qu'elle ne l'a pas gagné sur le terrain militaire, idem pour la Crimée. Voilà. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est une offre maximaliste qui peut intéresser les Russes.
Ulysse Gosset, cette image ce soir, cette mise en scène. Alors, Elsa nous disait tout à l'heure, bon, voilà, il faut quand même faire attention à ces images, parce qu'on peut avoir des doutes légitimes, elles viennent des agences russes, donc on peut avoir des doutes légitimes sur est-ce que ces images ont bien été tournées aujourd'hui sur le front à Koursk, est-ce qu'elles sont bien datées du jour. Néanmoins, le message, il est là, il y a une mise en scène. Cette mise en scène, elle est adressée à qui ce soir ?
D'abord, je pense que Poutine, en étant accompagné du chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le grand patron de l'armée depuis 2023, le général Gerasimov, vraiment fait une démonstration de force et de sa volonté d'en finir avec ce qui était vraiment une épine dans son pied depuis dans la patte de l'ours, si j'ose dire, depuis trop longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la principale ville de la région de Koursk est quasiment encerclée par les Russes. Il y a juste le sud-est qui est sud-ouest qui est libre et qui va permettre sans doute aux Ukrainiens de fuir pour échapper soit à la capture, soit à une déroute militaire trop importante. Le fait que Poutine dise ce soir que les terroristes entre guillemets qui seront capturés sont des terroristes et pas des soldats et qu'il le dit lui-même ne seront pas sous l'effet des conventions de Genève, c'est-à-dire qu'il pourrait être jugé par des tribunaux russes et condamné. C'est un signal, si vous voulez, de la fermeté de Poutine qui veut absolument empêcher Volodymyr Zelensky de marchander des territoires sur la table de négociation. On s'est beaucoup interrogé sur les objectifs des Ukrainiens en allant à Koursk. C'est dangereux, ça dégarnit le front, etc. Mais ce qu'ils voulaient, c'était arriver à une situation où le jour où on négocierait, il pourrait dire « Nous avons Koursk, rendez-nous quelque chose en échange. »
C'était avoir une monnaie d'échange. Enfin,
et bien ça, c'est.
Et là, ils sont en train de le perdre.
C'est ce qui est en train de s'effondrer. Donc, si vous voulez, stratégiquement, c'est une très grosse perte. Et donc, le message, évidemment, il est aux Américains pour dire « On ne signera rien avant d'avoir récupéré Koursk. » Aux Ukrainiens en disant « Vous avez fait une erreur, maintenant vous en payez le prix. » Et puis, pour Poutine, arrivant en militaire, en uniforme militaire, c'est une façon de dire aux Russes et à l'armée russe, je suis avec vous et on va pas se laisser faire par les Ukrainiens et on ne rendra pas
en train de reconquérir
notre tablier face aux Américains qui font pression sur Poutine.
Jérôme Poirot, on vous a invité pour parler des questions d'espionnage. On va y revenir dans un instant, mais je profite de votre présence. Justement, sur ces gains territoriaux rapides ces derniers jours dans la région de Koursk, le chef d'état-major Gerasimov disait au cours de ces cinq derniers jours, il y a 24 localités et 259 km2 du territoire de la région qui ont été repris. Est-ce que l'arrêt du renseignement américain, même ponctuel, a compté ?
Non, je ne pense pas, parce qu'il y a là beaucoup de soldats, de forces de l'armée ukrainienne qui sont là. Sans le renseignement américain, il y a quand même beaucoup de renseignements disponibles pour l'armée ukrainienne. Non, je pense que cette raison s'explique de deux manières. La première, c'est l'énorme pression mise par l'armée de la Fédération de Russie pour les raisons que vous avez évoquées les uns et les autres, et le fait parallèlement que l'armée ukrainienne ait décidé de se replier pour minimiser les pertes ou le nombre de prisonniers. Donc je crois que c'est le rouleau compresseur qui est à l'origine de ça, et je pense que les Ukrainiens disposaient, pour un théâtre qui est assez limité, de l'essentiel du renseignement utile.
J'aimerais qu'on prenne la direction de Washington, où on retrouve notre correspondant. Bonsoir Antoine Hollard. Vu des États-Unis, comment perçoit-on cette séquence, bonsoir, cette image de Vladimir Poutine en treillis ? Est-ce qu'on y voit une réponse adressée à Donald Trump ?
Écoutez, il y a assez peu de réactions ici aux États-Unis pour le moment, tout simplement parce que cette image, elle est très peu diffusée sur la télévision américaine. CNN en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais c'est tout. On ne la voit pas, par exemple, sur la chaîne conservatrice Fox News. Cette image, en tout cas, elle est interprétée chez CNN comme une façon de répondre à une réponse de Vladimir Poutine aux États-Unis. Les commentateurs y voient le fait que les discussions avec les États-Unis s'annoncent assez compliquées. Tout à l'heure, dans le bureau Oval, Donald Trump d'ailleurs a été assez prudent. Il dit qu'il y a une chance de convaincre Vladimir Poutine, mais il ne s'engage pas à faire un pronostic de savoir si Vladimir Poutine va répondre oui au cessez-le-feu. Pour se donner toutes les chances, en tout cas, Donald Trump a missionné son meilleur négociateur. C'est quelqu'un qui s'appelle Steve Witkoff, une personne qui est devenue vraiment centrale au sein de l'administration Trump. C'est l'homme de confiance du président. Il est en route pour la Russie. Il devrait arriver demain et il pourrait rencontrer Vladimir Poutine. Il a déjà rencontré Vladimir Poutine en début d'année. Le courant était plutôt bien passé entre les deux hommes. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à Vladimir Poutine ? Eh bien, quand on écoute les réactions et les déclarations des responsables américains, on comprend qu'il va surtout essayer de présenter au président russe les avantages qu'il aurait à accepter cette trêve. D'abord, les concessions territoriales que l'Ukraine va faire, parce que pour les Américains, c'est une évidence, les frontières vont bouger. Et ça veut donc dire que la Russie pourra s'accaparer des territoires ukrainiens, les territoires qu'elle occupe avec la bénédiction des Américains. Et puis, Washington pourrait également faire miroiter une levée des sanctions économiques, les sanctions américaines, mais aussi les sanctions européennes dans un deuxième temps. Il y a, donc ça, c'est le côté un peu carotte, si vous voulez. Et puis, Donald Trump dit qu'il va aussi utiliser un peu le bâton. Il dit qu'il est prêt à mettre la pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions si Moscou n'obtempère pas, si Moscou n'accepte pas la trêve. C'est une déclaration qui n'engage pas à grand-chose en réalité. En fait, Trump ne veut pas passer pour le président qui va capituler totalement devant Vladimir Poutine. C'est aussi pour cette raison que tout à l'heure il a expliqué, même si c'est totalement faux, qu'il est le président le plus dur face à Vladimir Poutine, plus dur que George Bush, que Barack Obama ou que Joe Biden réunis.
Merci beaucoup Antoine Hollard. Alors c'est vrai que le ton de Donald Trump, Paul Gogo, a changé. On avait l'impression il y a quelques jours qu'il allait tous aider Vladimir Poutine. Là, désormais, il montre les muscles. Ce soir, il se dit prêt à mettre la pression sur Vladimir Poutine. Il menace de nouvelles sanctions. Est-ce que ce ton-là est le bon pour s'adresser au président russe? Je crois savoir qu'il n'aime pas beaucoup réagir à chaud, Vladimir Poutine.
Non, c'est une obsession de la part du président russe de ne jamais céder à la moindre pression, qu'elle vienne de l'extérieur, et surtout de l'extérieur, mais même aussi de l'intérieur. Il essaye vraiment de se protéger de tout ce que même ses médias pourraient être amenés à dire, même s'ils sont sous contrôle et qu'il y a très peu de pression qui vient de ces médias, mais des gens qui pourraient essayer de le convaincre. Je sais par exemple que le président russe était très agacé en 2022 quand des gens venaient dans son bureau pour essayer de le convaincre d'arrêter la guerre. Et d'ailleurs, tous ces gens ont après changé de stratégie. et venait dans son bureau, par exemple, un ministre de l'économie vient dans son bureau et ne va pas lui demander d'arrêter la guerre, mais va lui dire, bah là pour l'économie, la guerre s'entraîne ça, ça et ça, peut-être qu'on pourrait se calmer un peu. Donc il y a vraiment tout le monde comprend qu'il faut pas mettre Vladimir Poutine sous pression. Lui, il peut être amené tout de même à vouloir accepter des choses dans ce qu'on va lui proposer. Et donc l'exercice, mais ça, il sait faire depuis très longtemps, Vladimir Poutine, ça va être d'accepter sans avoir l'air d'accepter, ouais. Avec un peu de mauvaise foi, avec des phrases détournées, faut le lire entre les lignes. Okay. Mais finalement, s'il veut accepter quelque chose, il saura le faire.
Mais Ulysse, le changement de ton de Donald Trump, est-ce que ça signifie que le vent a tourné pour Vladimir Poutine ou c'est le langage diplomatique de Trump et ça ne présage en rien de la suite des négociations ?
Non, mais ça veut dire que Trump veut aller vite. Et donc, il y a effectivement des coups de pression sur les Ukrainiens, sur les Russes. On change d'avis un jour et on reprend le contraire le lendemain. Il y a une négociation en cours. Et dans la négociation, il y a un aspect qui est intéressant. D'ailleurs, on en parlera sur les questions de renseignement et d'influence. Dans la balance de la négociation, il y a l'affaire des diplomates russes aux États-Unis et des diplomates américains en Russie. Il faut savoir que l'ambassade américaine à Moscou, quand tout marchait bien, c'est 1200 personnes, dont des diplomates, des employés civils, des militaires et des espions. Aujourd'hui, sur le 1200, il en reste 120. À Washington, de la même manière, le bunker, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on a surnommé l'ambassade russe, enfin soviétique puis russe, là aussi, il y a eu une hémorragie, il y a eu des expulsions massives, il y a eu 100 diplomates, espions ou pas, on verra, l'histoire le dira, qui ont été expulsés. Bref, ils se sont retrouvés à peu près à 130-140 Russes contre près d'un millier. Donc, dans la négociation actuelle, est-ce que les Russes vont demander aux Américains, c'est de faire revenir leur diplomate. Et pourquoi j'en parle ? Parce que aux États-Unis, où on n'a jamais vraiment aimé ni l'Union soviétique ni la Russie, en tout cas, on s'en est beaucoup méfié, on redoute que l'arrivée de nouveaux diplomates, entre guillemets, potentiels espions, va permettre à la Russie de remettre, de relancer ces tentatives, si vous voulez, d'espionnage de la société américaine, des secrets militaires, de l'influence, de détournement des hommes politiques, enfin, de retournement des hommes politiques. Donc, c'est l'un des aspects, si vous voulez. Il y a plein de choses comme ça. Il y a l'espionnage, la diplomatie, le commerce, le militaire. Et donc, c'est une négociation qui va durer longtemps. Dans ce contexte-là, l'enjeu, la cerise sur le gâteau, c'est le cessez-le-feu.